Vous écoutez France Culture.
Réplique, qu'est-ce qu'un réac ? Avec Laurent Geoffrin et Denis Tillinac. Bien qu'on ait de plus en plus de mal à penser l'avenir dans la catégorie du progrès, le terme de réactionnaire est redevenu, depuis le début du nouveau siècle, un élément favori du langage de la gauche. IVG, mariage gay, PMA, théorie du genre, génération réac, titrait il y a peu le Nouvel Observateur. La photographie d'une jeune et blonde participante de la Manif pour tous illustrait cette nouvelle croisade de ceux qui veulent faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Dans un autre numéro du même hebdomadaire, Laurent Geoffrin confiait son épouvante devant la délégitimation par une certaine droite de l'humanisme républicain. Les épouvantables se défendent en général de l'incrimination dont ils sont l'objet. Denis Tillinac fait exception à la règle. Dans un livre récent, il reprend crânement à son compte le mot dépréciatif et polémique qui le vise. Il nous entretient même du bonheur d'être réac. C'est pour le coup une réaction inattendue et qui mérite qu'on s'y arrête. Mais la parole est d'abord à l'accusation. Quand vous dites réactionnaire, Laurent Geoffrin,
oui.
Vous voulez dire quoi exactement ?
Je vais vous le dire.
Et vous pensez à qui, Laurent Geoffrin ?
Je pense à Tillinac, puisqu'il a fait un bouquin pour dire qu'il l'était. Je pense que le réactionnaire, ce n'est pas seulement celui qui est contre le changement, contre le progrès. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas dans la France d'aujourd'hui et dans la France depuis pratiquement deux siècles, c'est quelqu'un qui se méfie de la liberté et qui se méfie de l'égalité. Alors il va dire « je me méfie des excès ». De la libération des mœurs, par exemple, ou des excès égalitaristes. Mais au fond de lui-même, il pense que la liberté et l'égalité sont deux forces ou deux concepts qui ont une part de dangerosité très grande. Et donc, il sera toujours méfiant à l'égard des innovations, pas des innovations en général, parce que le réac n'est pas stupide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des innovations qui tendent à accroître les libertés individuelles ou à aller dans le sens de plus d'égalité, parce qu'il pense que l'égalité des droits aboutit à l'égalité réelle des conditions et donc à l'uniformisation, ce qui est, c'est un sophisme à mon avis, mais il pense ça. Donc voilà, c'est ça ma définition. Le réac se méfie de la liberté et de l'égalité.
Eh bien, Denis Tillinac, répondez-vous à cette définition. Est-ce de la liberté et de l'égalité que vous vous méfiez ?
Je crois avoir produit une apologie de la liberté dans mon livre. Alors peut-être que je n'ai pas la même définition de la liberté que Laurent Geoffrin. La liberté, ce n'est pas la porte ouverte aux pulsions, parce que ça finit mal. La liberté, c'est la capacité d'un individu psychiquement structuré à définir lui-même les principes qui vont régir son existence. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le libertarisme bobo gaucho des post-68ards. Alors, si j'ai bien compris, Laurent Geoffrin accuse les réacs de délégitimer l'humanisme républicain. Enfin, vous expliquez ce que c'est que l'humanisme républicain. J'entends parler des valeurs républicaines. Je prétends que ça n'existe pas. La liberté, tiens, par exemple, c'est une valeur. On est d'accord. On jouit de la liberté en Angleterre, qui est une monarchie, même théocratique, puisque la reine d'Angleterre est chef de l'Église anglicane. Donc, on ne jouit pas de la liberté en Corée du Nord, au Soudan ou en Iran, qui sont des républiques. Donc il y a des principes républicains, c'est un choix politique, il n'y a pas de valeur républicaine, donc ça ne veut rien dire.
Il y a quand même des principes aujourd'hui qui peuvent être remis en cause, comme par exemple la laïcité. Alors, je ne crois pas d'ailleurs que les réacs, ceux qu'on accuse d'être réacs, se méfient de la laïcité. on les accuse d'être réacs parce qu'ils défendent la laïcité, justement.
Oui. Ça, oui,
mais on l'a vu depuis l'affaire du voile de Creil.
Laurent Geoffrin est un homme cultivé qui connaît le sens historique du mot réactionnaire, effectivement, en réaction contre, allez, on va dire, les principes issus de la Révolution française.
Exactement.
Pour faire vite. Bon.
Je pense que c'était comme ça aujourd'hui.
Non, du tout. Ça a été longtemps. Non, mais c'est le sens. C'est le sens historique, mais vous permettrez à un écrivain d'être sensible au sens des mots. Le mot réac est devenu, je dirais, l'outil d'une espèce de démologie qui me fait penser au manuel démonologie du Moyen-Âge pour néantiser l'adversaire. Quand on ne sait pas à quoi répondre à des arguments, on dit « Ouais, mais vraiment, t'es réac. Si vous voulez, c'est l'avant-dernier cercle de l'enfer avant le facho. »
Oui, d'ailleurs, le facho intervient...
Facho, j'aurais bien qu'il...
Le facho intervient très vite.
Oui,
les listes noires...
Tout de suite après.
Les listes noires...
Je
n'ai
jamais dit qu'il est facho. Je ne veux pas dire qu'il est facho.
Oui, non, mais les listes noires, c'était les réacs. Et puis, depuis, par exemple, l'affaire Richard Millet, c'est devenu derrière les réacs. Le facho, et nous parlerons des écrivains. Mais Laurent Geoffrin répondait.
Alors, oui. Et je dirais... On revient à la Révolution. La Révolution française, elle a posé des principes qui sont d'égalité et de liberté. Elle n'est pas finie. Voilà mon idée. C'est-à-dire que on peut aller encore plus loin, on peut perfectionner les régimes. Non, je parle de la Révolution française au sens des droits de l'homme, au sens de ce qui est admis maintenant de manière plus ou moins consensuelle dans la société française. Je ne parle pas de la terreur ou de Robespierre, ça c'est autre chose. Ça c'est une excroissance, une déviation par rapport au projet d'origine. Mais la Révolution française n'est pas finie en ce sens que l'égalité des chances n'est pas assurée. Donc il faut aller plus loin dans l'égalité. L'égalité entre les sexes n'est pas assurée, il faut aller plus loin. Et la liberté des mœurs n'est pas tout à fait, elle est très grande, mais elle n'est pas tout à fait assurée, dans la mesure où, en tout cas jusqu'à une date très récente, mais vous vous êtes battu contre ça, la minorité homosexuelle, par exemple, n'avait pas les mêmes droits que la majorité hétérosexuelle. La Révolution française pose l'humanité comme une abstraction,
oui,
en disant, dès lors qu'on est un homme, on a le droit d'avoir les mêmes droits.
Oui, alors,
ou une femme.
Arrêtons-nous sur la question de l'homosexualité et toutes les manifestations qu'il y a eu en faveur du mariage pour tous ou contre celui-ci. Mais je prendrai un exemple peut-être caricatural, cependant révélateur. La victoire de Conchita Wurst au dernier concours de l'Eurovision. Bon, Conchita Wurst, transsexuelle, qui apparaît dans une robe Lameor et qui porte la barbe. Ce qu'on a lu, c'est que c'est une victoire de la tolérance et de la diversité en Europe. Le Monde a parlé de triomphe de la différence. Dans un pays, l'Autriche, réputé à tort pour son conservatisme. Ça m'a frappé parce qu'il me semble que c'est bien plutôt un triomphe sur la différence, ce que vous appelez égalité. Bien parce que nous entrons avec les transsexuels dans un monde qui est de plus en plus celui de l'indifférenciation. L'homme peut être une femme, la femme peut être un homme, la différence est ce que je ne suis pas. Aujourd'hui, rien n'est soustrait à ma prise grâce à l'élan démocratique, grâce à la technologie. Mais je continue simplement.
Allez-y.
Un mot parce que, après tout, les homosexuels se sont battus, et là je reviens au mariage, et à la PMA, puisque Libération demande maintenant, les 343 fraudeuses demandent la légalisation de la procréation médicalement assistée, les homosexuels se sont battus pour que soit reconnue leur différence. Et aujourd'hui, on change de cap.
Ils veulent les mêmes droits.
Oui, mais alors justement,
même
et là,
s'ils sont différents.
Là, je vais vous citer un réactionnaire que l'Observateur n'osera jamais traiter de tel. C'est la seule et ultime influence de Jean Daniel. Milan Kundera. Les homosexuels, j'ai de grands amis parmi eux. Ouais. Leur vie sexuelle ne m'a jamais intéressé.
Des juifs,
ce que j'admirais chez eux, c'était la façon dont ils menaient leur existence. Leur liberté échappait non seulement à tout contrôle administratif, mais elle les protégeait surtout contre le poids de la famille, contre le chahut de la progéniture. Je pense à André Gide et ses mots « famille, je vouais ». De nos jours, les homosexuels manifestent dans les rues de Paris pour leur droit à se marier. Mariage pour tous, mariage pour tous. Je pense à Gide. Et et beaucoup d'homosexuels aussi pensent ainsi.
Mais vous avez l'air de sous-entendre.
Ce désir de normalisation donne à réfléchir.
Non, vous avez l'air de sous-entendre qu'ils sont obligés de se marier. Ils ne sont pas obligés. C'est un droit qu'ils peuvent ou non utiliser. C'est la société démocratique, libre. Vous avez
PMA,
le droit,
PMA,
le code civil. Le code civil vous autorise à vous marier. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'adopter les normes familiales traditionnelles. En aucune manière.
Oui,
quand
on se souvient de la façon dont, avec un bel orgueil, Jean Genet se targuait de son irrégularité constitutive de son identité, y compris de son identité d'écrivain, et qu'on voit que maintenant les...
Pourquoi serait-ce changé?
Les homosexuels veulent pousser à Landau au Luxembourg. on a l'impression bon, que, la, je sais pas, que la liberté n'a pas gagné grand-chose. De toute façon, ça, moi je crois que le cosmos est sexué. Moi j'aime l'altérité. Quand je suis en Angleterre, j'aime pas que ça ressemble à la France. Quand je suis en Italie, j'aime pas que ça ressemble à l'Espagne. Je crois que qu'un homme n'est pas une femme. Et je crois que l'homosexualité est une marge affective et sexuelle. On est dans une société où on voudrait que les marges devinssent des normes. Et bien ça s'appelle la barbarie.
Mais en aucune manière.
Vous confondez l'égalité avec l'équivalence. Vous combinez avec la morne équivalence comme ça dans un monde qui serait indifférencié.
Vous confondez la nature des gens et leurs droits. Le droit des gens n'est pas lié à leur nature particulière. Il n'y a pas des droits spéciaux pour les jaunes, pour les verts, pour les rouges. Attendez, je termine. Encore une fois, c'est une conception abstraite de l'humanité. Alors, on peut la critiquer, mais c'est comme ça. Oui. C'est une conception abstraite, donc c'est les mêmes droits. Vous faites semblant de penser que dès lors qu'on a le droit de se marier, on est obligé de le faire. C'est un sophisme. C'est même pas un sophisme. C'est frustre.
Alors, le mariage d'un homme et une femme qui n'a. Le mariage n'a jamais.
Une extension de la liberté.
On a droit à tout, oui. Non
pas à tout.
À la limite. Le mariage n'a jamais été fait pour solenniser une histoire d'amour. Au contraire, toute l'histoire du romantisme, c'est l'amour contre la société. Et c'est l'amour tragique, c'est l'amour impossible. Donc à partir du moment où on donne l'impression de confondre l'égalité avec une espèce d'équivalence, où les individus, la sexuation des individus, l'altérité des gens, est le fondamental numéro un de l'histoire de l'humanité. Et de l'histoire
Mais vous caricaturez complètement la position. Ils demandent pour eux-mêmes, ils ne demandent pas pour les autres.
Une infime minorité d'homosexuels.
Une infime minorité d'homosexuels. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne faut pas leur donner ces droits à eux. Parce que ça vous défrise, mais de quel droit ?
Laurent Geoffrin,
vous voulez leur interdire une chose que vous faites, vous ?
Je voudrais vous poser une autre question. C'est-à-dire que, en effet, nous vivons dans un monde qui pense la réalité presque exclusivement en termes de droit. Mais ce sont toujours le droit des vivants. Nous parlerons tout à l'heure de la tradition qui est comme la démocratie des morts, selon Chesterton. Mais parlons du droit de ceux qui sont à venir. L'avenir, dit merveilleusement Hans Jonas, dans son livre « Le principe responsabilité », n'a pas de lobby. Et il est vrai que certains opposants... Moi, je ne suis pas intervenu dans ce débat. On m'accuse de... Je ne suis pas intervenu. J'ai entendu certains opposants au mariage pour tous s'inquiéter au nom du droit des enfants, pensant en effet que...
Ce n'est pas le même argument.
S'il y a des exceptions, bien sûr, dans l'histoire, nous n'avons pas à légaliser, si vous voulez, à faire entrer dans le marbre du droit le fait pour un enfant d'avoir deux parents de même sexe. Le père et la mère, c'est peut-être un droit des enfants. Et là, on ne parle jamais que du droit des vivants. Oui, le présent atteste encore une fois son hégémonie, son impérialisme. C'est quand même une question.
Que ça soit fondé, il faudrait démontrer d'abord que ça n'est pas dans l'intérêt des enfants ou que c'est néfaste aux enfants. Ça n'est en aucune manière démontré. En aucune manière. Toutes les études qui ont été faites, alors il y en a qui sont militantes des deux côtés, mettons celle-là de côté, celles qui sont faites mais à peu près sérieuses par des universitaires, vous ne pouvez pas démontrer que le fait d'avoir deux parents du même sexe vous provoque des troubles psychologiques particuliers. C'est impossible. Si c'était possible, vous imaginez bien que ça aurait été brandi immédiatement avec une virulence extrême. Or, ça n'est pas le cas. Donc, c'est indécidable. Peut-être dans 20 ans, ça passera pas que. Mais franchement, ça existe depuis quand même un certain temps, dans beaucoup de pays. D'abord, la civilisation ne s'est pas effondrée, parce qu'on dit que c'est contre j'ai lu dans votre livre, c'était contre la civilisation. La civilisation néerlandaise ne s'est pas effondrée. La civilisation californienne est en pleine forme. Pourtant, le mariage homo est légalisé depuis longtemps. Et les enfants de ces couples-là se portent ni mieux ni moins bien que les autres.
Denis Tillinac,
à partir de là, je ne vois pas pourquoi on devrait leur
dire. On peut effectivement.
Je vais revenir sur la mémoire aussi, parce que c'est important.
On peut nier effectivement le complexe d'Oedipe. Oedipe, bazarder Freud à la poubelle, mais à ce moment-là, il faudra aussi bazarder les deux référents de base de notre civilisation, qui est la jonction du judéo-christianisme et qui est gréco-romaine, c'est-à-dire Homère et la Bible. Hein, et Homère et la Bible, c'est des histoires d'une civilisation qui se noue à travers les liens entre la féminité et la masculinité.
S'il n'y a plus de civilisation, la majorité n'est pas affectée par cette minorité.
Laurent Geoffrin.
Vous faites semblant de croire qu'on n'en pourra pas se marier avec une femme. Il n'a jamais été question de ça.
Revenons. Une minorité, vous l'avez dit, est donc une marge. Une minorité ne peut
pas. Elle demande des droits pour elle, pas pour les autres.
Une marge ne doit pas devenir une norme, sinon c'est la
barbarie. C'est pas une norme. Arrêtez, c'est pas une norme, c'est une norme qui existe, qui est étendue à la minorité. Elle existe pour la majorité, la norme.
Sauf que.
C'est le mariage.
Laurent Geoffrin, nous allons articuler ce débat avec le débat sur la tradition, parce que. Allons-y. Nous voyons précisément que dans ce grand élan égalitaire, le progrès de l'égalité des conditions, dont parlait Tocqueville, pour s'en émerveiller et pour s'en inquiéter également, eh bien, on a voulu introduire à l'école des ABCD de l'égalité, parce qu'il y aurait en effet des stéréotypes de genre, mais c'est très intéressant, les stéréotypes de genre, et il faudrait apprendre aux enfants à se défaire des stéréotypes avant même de connaître le monde dans lequel ils vont entrer. Mais c'est très important parce qu'en effet, si vous avez des couples ainsi constitués, eh bien, ils n'ont pas simplement des droits à côté des autres. Ils sont en droit de revendiquer une certaine représentation dans les contes pour enfants et dans la littérature. Parce que la littérature, elle est fondée. La littérature, la poésie, l'art pictural, sur, précisément, non pas la différence des genres, mais l'exploration infinie de la différence des sexes. Et nous sommes titulaires...
Vous avez l'air de dire que ça va être interdit.
Non, ça ne va pas être interdit. Non. Mais nous sommes, avec le passé un rapport de supériorité, nous avons vaincu les stéréotypes dont il est fait, et donc nous éduquons les enfants comme des êtres nouveaux, et en même temps, nous allons rectifier le passé peu à peu pour qu'il corresponde aux normes actuelles, et c'est ce qu'on fait dans la réécriture de tous les contes et de toutes les histoires. Là, la tradition, en effet, dont nous sommes issus, menacée par, non pas seulement l'impérialisme, mais l'arrogance du présent.
Si vous me permettez, je voudrais parler peut-être une minute, une minute trente sur le passé. J'aime bien l'histoire, et je voudrais parler de la tradition. La tradition française, pour une bonne partie, il n'y a pas que ça, c'est précisément le changement, le progrès, c'est précisément la marche vers plus de liberté et plus égale. C'est la tradition, c'est l'identité française. C'est inscrit au fronton de toutes les mairies. C'est inscrit dans le code civil. C'est les grands héros de l'histoire de France. Chacun a son panthéon personnel. On ne peut pas accuser les progressistes de manquer de mémoire. Au contraire, moi, dans ma mémoire à moi, il y a les Lumières, le XVIIIe siècle, la Révolution française. Il y a Émile Zola, il y a Victor Hugo, il y a tous ces gens-là qui étaient des progressistes, qui étaient anti-réac. Et ma mémoire, pas du tout, je n'ai mis personne. Simplement, on a le droit de préférer les uns plutôt que les autres. J'ai le plus grand respect pour les autres. Je vous donne mon panthéon à moi. Bon, et premier point. Deuxième point, revenons en arrière. Parce que le sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réac? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réac dans le passé? Parce qu'aujourd'hui, on peut discuter, mais dans le passé, c'est assez clair. En 1789, le réac, il est pour la monarchie de droit divin. Ça a disparu. En 1802, rétablissement de l'esclavage, le réac est pour le rétablissement de l'esclavage. C'est la tradition. Le progressiste est contre. Attendez.
Saint-Domingue. Non, faut pas s'imaginer que Bonaparte a rétabli l'esclavage partout.
Saint-Domingue. Là où il devait le faire. Et ça continue. Pendant l'affaire Dreyfus, le réac est contre Dreyfus.
Non, c'est pas vrai. Alors là, Jospin lui-même a reconnu qu'il a dit une connerie quand il avait laissé entendre que c'était plutôt à droite qu'à gauche qu'on était anti-Dreyfusard. On sait maintenant que c'est pas vrai.
Enfin, disons, le progressiste pense que la raison d'État n'a pas à sacrifier un individu.
Après coup, le progressiste revendique toujours ce qui a donné raison.
Je termine.
Ça n'a pas de sens.
Vous savez, vous prenez les positions des réacs au fur et à mesure de l'histoire, vous vous apercevez qu'elles disparaissent, qu'elles sont dépassées par l'histoire.
Ah.
Et oui, elles sont dépassées à chaque fois. En 48, le réac est contre le suffrage universel. Il dit, voilà, on va voter n'importe comment, la populace, etc. Plein de gens sont sur cette position.
Ce sont les réacs de l'époque. Peut-être que les progressistes sont sur cette position maintenant que le Front National...
Non,
ils ont moins d'amour pour le prolétariat.
Personne ne propose de rétablir le suffrage censitaire.
Oui, mais enfin,
l'idée du réac est éphémère.
Le réac est barbare.
Attendez, je termine. Le réac se réfère à une tradition, à une stabilité. Ces positions, il est obligé de les abandonner au fur et à mesure des générations parce qu'elles ne tiennent pas debout. et parce qu'elles sont dépassées par le progrès. Le progrès existe toujours.
Bon, alors,
et ça sera la même chose, vous verrez, je termine, pour le mariage pour tous. Dans 15 ans, vous verrez que le mariage pour tous sera dans les mœurs, que la civilisation sera toujours debout et qu'on aura simplement fait progresser l'égalité et la liberté.
Ouais. On verra bien. On se sera peut-être rapproché un peu plus du meilleur des mondes d'Huxley. Et il n'y aura pas forcément lieu de s'en féliciter. Alors, non, mais il y a eu beaucoup de choses dans ce qu'a dit Laurent Geoffrin. Le progrès, c'est une idée judéo-chrétienne. Hein. C'est l'histoire fléchée dont parle Chantal Delsos. Moi, je dis histoire vectorielle. Bon, on a l'impression que c'est l'humain, ou hegelienne, si vous voulez, que l'humanité chemine vers une finalité. Alors les progressistes, stricto sensu, l'identifient une espèce d'émancipation comme ça de la personne. Alors elle, je ne la nie pas, il y a eu la mention de la personne, mais la personne a dégénéré en égo. Et aujourd'hui, on a des espèces d'égo immatures, solitaires, avides, frénétiques, nourris par la société de consommation et de spectacle que les progressistes contestaient jadis, mais qu'ils valorisent un peu. Alors donc moi, je divinise pas du tout le progrès. Hein. Il y a des progrès qui sont des régressions morales, mentales, esthétique. Alors, quant aux fameux réactionnaires, dans le panthéon des réacs, il y a Balzac, mais il y a Baudelaire, il y a souvent...
Comme écrivain, bien sûr.
Il y a Rimbaud, il y a Tintin, il y a Mermoz, il y a le général de Gaulle. C'est pas des gens qui étaient forcément des...
De Gaulle était le contraire d'un réac.
Laurent Geoffrin opposait une espèce de... il définissait l'identité française comme l'aval donné à une course en avant perpétuelle qu'il appelle le progrès. Moi, que j'appelle la soumission à la modernité. La modernité, c'est de dire il n'y a plus le bien et le mal, il n'y a plus le vrai et le faux, il n'y a plus le juste et l'injuste, il y a le branché et le ringard. Le branché du soir et le ringard du lendemain matin.
Alors, attendez.
La modernité, c'est une idole et c'est une idole absurde.
Simplement, vous dites que vous aimez une certaine tradition, celle justement de la marche en avant de l'égalité et de la liberté. Il n'empêche que la modernité, les temps modernes, c'est aussi la civilisation qui a fait une place centrale à la culture. Or, la culture ne nous amène pas à penser en termes de progrès puisqu'elle nous dit que les livres anciens auront toujours quelque chose à nous apprendre. Ça peut être évidemment les livres sacrés, mais ce peut être les grands livres de la littérature. Et Ancionas, encore une fois, dit ceci, l'homme authentique existe depuis toujours, il faut se résigner au fait que nous devons apprendre du passé ce qu'est l'homme. Je ne sais pas si Henry James ou si Proust sont progressistes, mais si je veux vivre selon la nuance, comme le disait Barthes, c'est Henry James et Proust que je lis. Or, aujourd'hui, on veut projeter sur la culture et sur l'art même les catégories du progrès. Il ne peut pas y avoir de régression. Et par exemple, l'art contemporain est considéré comme une avancée et les ennemis de l'art contemporain comme d'horribles réactionnaires. J'ai sous les yeux un livre incroyable, publié sous la direction de François Cusset, une histoire critique des années 1990, publié conjointement par La Découverte et le Centre Pompidou Metz. Il est dit dans ce livre que la haine de l'art contemporain, en effet, est réactionnaire, et un article inrecuptible est cité. Peu importe les opinions qu'ils affichent, Jean Clair, Jean-Philippe Domecq et Marc Fumaroli sont les meilleurs amis du Front National. Donc, aujourd'hui, la critique même de l'art contemporain et réactionnaire, parce que l'art va de l'avant et vers toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, et on ne peut rien dire. C'est quand même une situation dont il y a tout lieu de s'alarmer, me semble-t-il.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, il ne va pas vous interdire de parler, monsieur Cusset. Là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Cusset ne va pas venir d'un coup avec une fourche pour vous piquer parce que vous dites des choses contre lui. Vous êtes libre.
Oui,
vous avez lire, on n'a pas le droit de lire. On n'a pas le droit de dire. Vous avez le droit. Il y a cette idée selon laquelle les idées qui ne sont pas de gauche sont réprimées en France, c'est faux. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, et vous le dites.
Oui, mais elles sont disqualifiées, parce que si vous êtes réactionnaire...
Je peux répondre sur le fond.
Oui, allez-y.
Je ne crois pas, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous sur ce point, appliquer les catégories du progrès social ou du progrès économique ou politique à l'art, c'est assez dangereux. Donc, ça reviendrait à dire des absurdités comme, je ne sais pas, moi, les Beatles, c'est mieux que Mozart, c'est grotesque. Ou Boulez et Messiaen, c'est beaucoup mieux que Bach et Beethoven. Eux-mêmes n'auraient pas cette idée saugrenue. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté réactionnaire. Il y a eu, en tout cas, on le sait maintenant, au moment des premières expositions des impressionnistes, Il y avait des réacs de l'époque qui considéraient que c'était pas de la peinture, que c'était ridicule. C'était
oui, mais
grotesque.
On peut pas plaquer.
Non. Je plaque pas. Je l'art rappelle que ça existait.
Autre chose,
de même
quand
que
même.
Quand l'art pictural est devenu abstrait ou enfin moderne quoi au début
moderne quoi
au début
abstrait ou moderne
moderne à la fin du 19e début du 20e
donc
avec Picasso etc.
dire cubiste ou
cubiste etc. Bon. Il y a eu des critiques traditionnelles ou conservateurs ou réac qui considéraient que c'était pas de la peinture que ça prostituait l'idée du beau que l'esthétique était détruite etc. Il y a à chaque génération il y a eu ça quand même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ceux qui disent que l'art contemporain, c'est nul ou c'est pas intéressant, appartient à partir de la même catégorie, il y en a, oui, je suis sûr. Pas tous, mais il y en a. Il y en a d'autres qui pensent, parce que je suis pas loin de penser, moi, sur certains domaines de l'art contemporain, qu'on est arrivé à une forme d'impasse. Par exemple, la musique atonale me paraît dans l'impasse, parce que personne ne l'écoute, en fait, même sur
France Musique. Ah bah vous serez le réactionnaire de quelqu'un, de la... Laurent Geoffrin.
Oui, mais par contre, la modernité musicale, elle s'est transportée dans la musique populaire.
Ah bah d'accord.
Ouais, vous voyez, c'est encore pire.
Vous venez, vous venez de vous récupérer.
Ça serait un des points sur lequel je ne serais pas forcément désaccord. Oui, non, je crois le parallèle entre l'art contemporain et des différents mouvements de contestation esthétique qui ont pu avoir lieu n'est pas pertinent. Pourquoi ? Parce que Delacroix, oui, il se chamaillait un peu contre Ingres, et puis les impressionnistes contre Delacroix, et puis les cubistes, les pointillistes ont dépassé les impressionnistes, enfin dépassé entre guillemets. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire de la peinture occidentale, et puis on prenait beaucoup des anciens, et puis on en contestait certains aspects, et on définissait de nouvelles écoles, des nouveaux regards. C'est une grande révolution impressionniste, et puis après il y a les fauves, puis après il y a les cubistes, et puis après l'art contemporain, c'est autre chose. Elle n'a plus d'ancrage dans l'histoire de l'art occidental. Elle n'a plus aucun ancrage. C'est des notions, c'est des concepts, ça peut être facétieux, ça peut être tragique, en général c'est plutôt ricanant.
Ça peut surgir n'importe où aussi dans le monde,
d'ailleurs. C'est dérisoire, c'est déraciné de toute notre histoire esthétique qui commence en gros avec la crête et qui finit, à mon avis, avec Nicolas de Staël des années 50. Alors, et justement, si j'en reviens là, c'est parce que Laurent Geoffrin tout à l'heure opposait une idéologie du mouvement perpétuel vers plus de liberté, d'autonomie, qu'il appelait progrès, à la stabilité. Il disait, et le réac, c'est celui qui voulait dire qui est figé, crispé, nécrosé.
Justement, dans ce petit
libelle, moi j'ai essayé de montrer que en amont même d'un système de valeurs, il y a des fondamentaux presque anthropologiques sans lesquels aucune vie en société n'est possible. Le sens de l'honneur, le sens de la mémoire, le sens de la lenteur, le sens des hiérarchies, le sens de l'harmonie. Et je crois que l'égalité est un principe politique tout à fait à voix parmi d'autres, mais on ne peut pas faire fi de ces fondamentaux. Et j'ai l'impression que la modernité, de cette espèce de survalorisation de ce qui est par rapport à ce qui fut hier soir, est en train de balayer tout ça dans une espèce de ce que Bernanos appelait une idéologie du chien crevé au fil de l'eau. Alors on est vers quel progrès ? Vers où vous nous amenez ? Oui, vers le meilleur des mondes d'Huxley. Ça,
Laurent Geoffrin, et après j'interviendrai.
Je ne crois pas du tout que la société contemporaine soit ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle méprise le passé. On n'a jamais autant
folklorisé.
Attendez, laissez-moi terminer.
On n'a pas touristisé.
On n'a jamais autant consacré d'efforts et d'énergie à protéger le patrimoine. Jamais dans l'histoire. Au 19e siècle, quand vous avez eu le temps d'Haussmann, par exemple, on détruisait, alors, sans aucune espèce de d'arrière-pensée, des quartiers entiers, qui étaient des quartiers historiques moyenâgeux, pour faire des nouveaux immeubles. On ne le fait plus aujourd'hui. On préserve les villes en essayant de leur garder leur personnalité. Il n'y a jamais eu autant de musées qu'il y en a aujourd'hui. Et le mépris que vous avez pour les touristes me semble infondé. C'est normal que les gens aillent voir les grands musées. C'est très bien. J'étais récemment à Amsterdam au Rijksmuseum. C'est formidable. Et c'est ouvert à tout le monde. Et il y a des jeunes, il y a des vieux. Ne dites pas que c'est une décadence. C'est un progrès formidable.
Un mot sur le tourisme. Et
le culte du passé est une des caractéristiques de l'époque contemporaine.
Un mot sur le tourisme. J'étais l'autre jour, je rencontrais un jeune intellectuel québécois, un homme tout à fait admirable, qui s'appelle Mathieu Boccoté. Et je lui parlais du Prague que j'avais connu. Il me disait, j'étais à Prague il y a peu. J'avais l'impression extrêmement douloureuse de faire partie d'une armée d'occupation touristique. tous les chemins étaient balisés, la foule était immense et ce n'était plus possible. Donc il n'y a pas de mépris pour le tourisme. Parce qu'il est lui-même touriste et parce que nous sommes entraînés dans quelque chose qui a en effet des effets absolument terribles. Il ne méprise personne et s'il méprise quelqu'un, c'est lui-même. Mais je voudrais en venir à une question différente. La réapparition du mot de réac... je l'ai
c'est
situé.
Dans la touristisation du monde, la folklorisation et le fait qu'on patrimonialise tout. Mais ça n'a rien à voir. Mais quel rapport avec l'égalité ? On patrimonialise tout, on fait des centres-villes, des espèces d'espaces néo-gothiques avec des enseignes comme ça. On muséifie tout le passé, mais on le concasse, les médias le concassent.
Je voudrais en venir à une autre question. J'ai vu réapparaître le terme de réactionnaire en 1989, parce que dans les années 80, qui sont les années du cauchemar, selon François Cusset, un cauchemar initié par un des grands intellectuels du Nouvel-Observateur, qui était François Furet, avec le passé d'une illusion, il a désespéré Billancourt, parce qu'il a dit que la révolution russe n'avait pas eu que des effets positifs. Donc, c'était une époque...
Il était temps de s'en apercevoir.
C'était une époque antitotalitaire.
Moi, j'ai toujours été anticommuniste, donc...
C'était une époque antitotalitaire où la discussion allait bon train. Je pense toujours à cette nostalgie de Philippe Reynaud pour un débat organisé à France Culture. Jean-Marie Borzex crée les rencontres de Pétrarque. Il y a les représentants du débat, d'esprit et de commentaires. Et tout ça discute merveilleusement parce que chacun sait que son opinion est faillible et qu'il a besoin de celle des autres. Quand on est progressiste et quand on vise des réactionnaires, on est dans une espèce de surplomb, d'infaillibilité. On défend des avancées contre des gens qui sont condamnés par l'histoire. Mais je veux dire que le mot est apparu en 1989 dans le livre de Christian Baudelot et Roger Establet, Le Niveau Monte. Mmh. Le Niveau Monte, eh bien, évidemment, c'était nié par des pleureuses réactionnaires, par des collectionneurs de poncifs, des fanatiques du signal d'alarme. Les fanatiques du signal d'alarme sont devenus très nombreux. Tout le monde constate aujourd'hui, tout le monde, même...
Que tout le monde constate que le niveau a baissé entre-temps. Donc...
Non, tout le monde constate que le niveau baisse depuis longtemps, que c'est une tragédie, mais je veux dire par là qu'aujourd'hui est traité de réactionnaire celui qui ouvre les yeux. Celui qui ouvre les yeux, par exemple, sur les problèmes posés par l'immigration ou par l'islamisme, il est réactionnaire, islamophobe et raciste. Donc on a l'impression aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de dire « le roi est nu ». Et quand on dit « le roi est nu », on est réac.
Je sais pas, vous adressez encore une fois à la mauvaise personne. Moi, je me pensais que ceux qui élevaient les objections à l'immigration étaient forcément des racistes. Je me pensais ça.
Voilà, vous auriez mieux surveillé votre journal.
Il y en a qui pensent qui sont des racistes. Ça existe.
Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr.
Mais ce n'est pas forcément la majorité de l'espèce. Le mot réactionnaire, effectivement, est utilisé. Vous savez, tous les mots sont utilisés souvent à tort. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Moi, j'ai donné une définition qui se vérifie au fur et à mesure de notre discussion. Parce qu'à chaque fois, quand vous prenez des exemples, c'est pour montrer un excès de la liberté ou un excès de l'égalité. Le tourisme, c'est un excès manifestement de l'égalité. Il y a trop de monde, tout le monde peut aller dans tous les musées.
Une perversion de la notion d'égalité.
Voilà,
c'est pas pareil, c'est pas un excès. Je suis pour une surabondance.
À ce stade, je ne dis pas que votre opinion est fausse. Je dis que ça correspond à ma définition du réac qui pense que la liberté, c'est la licence. Ça peut se dégénérer en licence et que l'égalité dégénère en égalitarisme. Moi, je ne pense pas. Je pense que globalement, on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, dans ces deux domaines, celui de la liberté et celui de l'égalité, notamment sur le plan économique, où l'injustice sociale éclate à chaque instant.
Autre sujet,
ça. Mais vous savez, comme Laurent Geoffrin, que c'est au nom de l'égalité, aujourd'hui, qu'on s'attaque à l'école. Parce qu'on prend le point de vue de l'élève en difficulté, de l'élève le plus défavorisé, on supprime les redoublements, et évidemment, le niveau général baisse. C'est-à-dire, on passe d'ailleurs de l'égalité des chances à l'égalité des résultats, avec la réussite pour tous. Au nom de l'égalité, certains sociologues nous expliquent que le mérite n'est pas un mérite, puisque c'est un talent, c'est un don. Donc l'égalité peut elle-même, quand elle quand elle entre dans une espèce de démesure, mener à la remise en cause des fondements républicains de l'école, parce que les grands défenseurs de l'égalité à la fin du 19e siècle, et même jusque dans les années 50, jusque dans les années 60 avec Laurent Schwartz, défendaient au nom de l'égalité la sélection. Ils disaient c'est la sélection qui peut éviter la reproduction sociale. Et aujourd'hui, le mot de sélection est considéré comme un gros mot par les partisans de la néo-égalité. Donc l'égalité est un concept qui lui-même mérite d'être traité avec une certaine, si vous voulez, un certain doigté.
je vous rejoins sur un point, en tout cas, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'école républicaine en France est un échec des progressistes. Je le juge par ses résultats. Je ne fais pas d'idéologie. Je constate qu'effectivement, ça ne marche pas très bien, que les classements internationaux, la France a plutôt tendance à régresser, et que quand on fait des enquêtes auprès des élèves et des enfants sur le taux de bonne lecture ou de calcul, là, on a aussi des résultats souvent effrayants. Mais en revanche, là où je suis perplexe, c'est que les pays où ça marche le mieux, selon vos propres critères, ça devrait être un désastre. Parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de redoublement. Il y a des pays scandinaves, par exemple, où ça marche très bien. Manifestement, ils ont de très bons résultats. Mais ils n'appliquent pas les méthodes traditionnelles qu'on appliquait en France, c'est-à-dire la sélection, la sanction, le redoublement, etc. Bon, alors comment font-ils ? Alors peut-être qu'ils sont d'espèces de nature totalement différentes, mais je serais moins péremptoire que vous sur les causes de l'échec relatif de l'école française.
Il y a aussi une certaine homogénéité qui n'existe plus tout à fait en France.
Mais je vois ce que vous voulez dire.
Non, je ne dis rien.
Non, trop tard, vous l'avez dit.
Sur ce sujet précis, pas grand-chose à ajouter. Sinon, oui, parmi les raisons qu'on attribue à ce succès, par exemple, des pays scandinaves pédagogiques, à l'autonomie des établissements. Autonomie totale des établissements et la faible intervention des parents d'élèves. Déjà, on échappe à cette dictature-là qui est pernicieuse. Oui, moi je crois... Alors là, je verrai le problème autrement. Je crois que ce qu'on appelait l'école républicaine, hein, avec la belle circulaire de 1882 de Jules Ferry, a correspondu à un moment de l'histoire de France. Ce moment est mort entre les années 50 et les années 60. On ne refera pas, alors pour le coup, ce qui... on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et ce qui est obsolète ne renaîtra pas. Il faut repartir sur d'autres bases, et ça sera probablement des bases très éparpillées, très décentralisées. On ne réformera pas un monstre d'1,100,000 salariés qui s'appelle l'éducation nationale, je crois. Et les profs, ils sont pour rien. Ils sont aussi compétents et dévoués qu'avant. Simplement, ils n'ont plus le sens de leur mission. Il ne faut pas oublier que les hussards noirs, il fallait donner la morale de Kant, inculquer la morale de Kant aux gosses et récupérer l'Alsace-Lorraine. Hein. Il y avait cette double finalité. Bon, ben, il n'y a plus de morale du tout, puisque l'idée même de morale est considérée comme réac, et quant à l'Alsace-Lorraine, ben jusqu'à la prochaine réforme, il semble qu'on l'ait récupéré. Mais un duché va peut-être se reconstituer. Oui, sur le... Il y a toujours cette histoire, je suis assez d'accord avec Alain Finkielkraut, c'est l'égalité. Bon, c'est un principe, c'est un objectif politique. Parmi d'autres, un peuple a besoin de plus d'égalité. C'est vrai que c'est dans notre culture, mais il a besoin aussi de stabilité, il a besoin de sécurité, il a besoin d'identité, il a besoin d'honneur,
il a besoin de fierté.
Alors, je veux bien parler d'identité. Effectivement, à partir du moment où on considère qu'il y a un grave problème d'identité dans l'inconscient collectif, que le peuple, pour de bonnes et de mauvaises raisons, en constatant des réalités, et je l'accorde dans les fantasmes à la fois, a l'impression qu'il est menacé dans son identité par des flux migratoires de plus en plus incontrôlés qui arrivent dans tous les sens. Et comme effectivement ce phénomène est contemporain d'un islamisme radical, il est assez naturel une espèce de peur s'installe. Et la peur est un fait politique des hommes d'État, ont le devoir de la prendre en considération. Alors, absolument. Dire ça, et moi je crois qu'un peuple a besoin d'identité, et je voudrais dire que la France, terre des droits de l'homme, la France n'est pas un pays d'immigration, contrairement à ce qu'on croit, comme le Brésil, les États-Unis ou le Canada. La France est un pays sédentaire de paysans dans lequel, toujours, sont venus des immigrés qui sont devenus des Français. Nuance, grosse nuance, on veut nous peindre ça. La France est une espèce d'espace blanc, de page blanche hors sol sur lequel n'importe qui viendrait inscrire les propres figures de ses désirs. Non, c'est pas ça. Et si on en arrive à ça, alors là, oui, on pourra avoir des extrémistes violents et dangereux. Et c'est pour conjurer ce risque que moi, je revendique le droit de poser avec fermeté la question d'une politique rigoureuse de contrôle des flux migratoires. Alors, et dire ça, c'est considéré comme réacteur.
Et
oui, ou alors on dit ça le pénise les esprits.
Enfin, c'était la position défendue dans le Nouvel Observateur par Jean Daniel, qui, citant Lévi-Strauss, parlait lui-même de seuil de tolérance. Mais
oui,
le fondateur du Nouvel Observateur n'est pas en odeur de sainteté dans son propre hebdomadaire.
Sur l'identité, si, au contraire.
Je suis payé pour le savoir, parce que quand je me réclame de lui,
je suis un élève de Jean Daniel. Je suis un élève de Jean Daniel.
Et même de fasciste. Donc, mais comme disait Jacques Chirac,
c'est pas moi qui je ne vous ai jamais traité de fasciste.
Jacques Chirac, pas vous, mais enfin, Jacques Chirac, votre journal, Jacques Chirac, qui n'est pas un maître politique pour moi, mais un maître zen, a eu cette phrase que je me cite souvent, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Tant mieux.
Chirac, que BHM, dans un livre, parlait de l'extrême droite chiracienne. C'est dire quand même la lucidité politique des intellectuels de gauche.
Il est très centré.
Mais il arrive à des gens de gauche de dire des bêtises, je suis d'accord.
Oh,
ça arrive.
Non, Laurent Geoffrin.
Sur l'identité, ce que vous dites est vrai dans certains quartiers, ou dans certaines villes. C'est vrai. Quand vous avez...
Dans toute l'Europe.
Attendez.
Non,
quand vous avez... Non, parce que je vais terminer mon raisonnement.
Excusez-moi.
C'est vrai, à Tarascon, dans le centre de Tarascon, il y a une majorité maintenant de musulmans. Apparemment, ça change l'identité du quartier, évidemment. Dans le 9-3, comme on dit, il y a des villes où il y a une majorité de gens qui sont soit étrangers, soit d'origine étrangère. Ça change l'identité, d'accord.
Aussi,
est-ce que ça menace... Est-ce qu'on peut en déduire? Ce sont des phénomènes qu'on a connus dans beaucoup de pays, et aux États-Unis par exemple, massivement. Il y a des quartiers.
Pas comparé.
Non, d'accord. Bon. Est-ce que ça menace l'identité française? À mon avis, non. C'est ça notre désaccord.
Oui,
je reconnais volontiers, c'est évident qu'il n'y a pas un seuil de tolérance, c'est difficile, enfin, le mot est difficile à employer, mais enfin, il y a des endroits où quand les gens d'origine étrangère deviennent majoritaires, oui, il y a un problème d'identité, évidemment. Mais l'identité française, c'est bien autre chose. D'ailleurs, dans l'identité française, il y a l'accueil.
Bien sûr.
Il y a aussi l'évolution de la culture française. Il y a l'évolution des mœurs. Prenons la cuisine, par exemple. Le plat le plus populaire en France, c'est le couscous.
Ben oui.
Le plat, ensuite, c'est les pâtes italiennes. L'identité, ce n'est pas quelque chose de fixe.
Attends.
L'identité française, elle a évolué et c'est un objet historique extrêmement résistant, les identités. Quand vous prenez l'identité, je prends deux exemples et je termine, pour montrer que c'est résistant. Un, l'identité bretonne. Il n'y a pas d'État breton depuis le Moyen-Âge. Depuis Anne de Bretagne, fin du Moyen-Âge, elle s'est mariée, il n'y a plus d'État breton. Il y a toujours une identité bretonne, alors qu'elle a été réprimée par la République, que vous aimez tant, au XIXe siècle, avec beaucoup de vigueur.
Je suis pire que ça. La République une est divisible, notre royaume de France, disait Péguy. Donc, j'aime tout.
Autre exemple, qui est très différent, la Pologne. La Pologne a été détruite. Physiquement, elle a été détruite comme État, elle a été partagée plusieurs fois dans l'histoire, et pendant longtemps, il n'y a pas eu l'identité polonaise est toujours là. Donc, quand vous venez dire l'identité française est menacée, c'est une des priorités de notre politique de la défendre, c'est l'outrance. On exagère la menace pour justifier une politique, par ailleurs, qu'on peut contester.
Oui.
Voilà mon raisonnement. On exagère tellement qu'on en vient à justifier des choses.
Denis Tillinac, je voudrais dire un mot après. Denis
au nom de la défense de l'identité française.
Je suis d'accord. J'accorde à Laurent Geoffrin que l'identité n'est pas fixe. L'identité française, si fluide soit-elle, procède quand même essentiellement de 15 siècles d'histoire géo qui a engendré un patrimoine spirituel, intellectuel, architectural, politique, littéraire, esthétique, gastronomique et autres. C'est menacé par le sentiment que on va vers un espèce d'univers cosmopolite, multiculturel, que ça fait peur aux gens. Et quand les peuples ont peur, pensez à ce qui s'est passé au Balkan. Hein.
Denis Tillinac,
il y a des seuils. Bulgarie, 8% de musulmans, ça va à peu près. De temps en temps, ça se frictionne, ça va à peu près. Macédoine, 25-30%, pratiquement le nord autour de Tetevo est en état de sécession et on est au bord de la guerre civile en permanence. Mais je souhaite pas ça, venir à la France.
Alors, je voudrais ici parler de l'affaire qui occupe nos esprits, c'est-à-dire la tuerie de Bruxelles, Medine Mouche. Celui-ci a grandi dans la haine de la France. Et ce « dans », c'est une préposition de lieu. Ce n'était pas un sentiment personnel, c'était son environnement. Dans le quartier de Roubaix ou de Tourcoing où il habitait, où il a grandi, dans la prison où, paraît-il, il a été radicalisé et où maintenant il y a des appels à la prière, apprend-on, chaque promenade, etc. Donc ça donne à réfléchir. Que se passe-t-il? Et si on a peur du djihadisme diffus qui se répand dans notre société, ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une peur lucide. Mais d'un autre côté, il faut dire que tout n'est pas joué, puisque le CFCM vient de produire un document mettant en garde contre la radicalisation de l'islam, et ce n'est pas un document d'opportunité, puisque visiblement, il a été préparé depuis plusieurs mois. Donc, il y a une bataille à l'intérieur de l'islam, mais quand je lis le livre de Luc Boltanski, Vers l'extrême, Arnaud Esquire, il y a un déni absolu de cette réalité et de ce problème, et ceux qui le posent sont traités de réactionnaires, de maurrassiens ou de fascistes. C'est ça qui est embêtant.
Quel problème ? Parce que c'est de l'immigration en général ou de
l'islamisme ? Non, même de l'islamisme. Bien entendu. Et encore une fois,
tous les gouvernements de droite et de gauche luttent contre l'islamisme, le terrorisme, tous.
Un moment, il y a
peut-être... Même Mélenchon dénonce l'islamisme.
Ce qui me gêne dans le mot... Mélenchon...
Qui va vous reprocher de dénoncer l'islamisme ?
Mélenchon dénonce le grand déménagement du monde, et c'est une très belle expression, sauf que de ce grand déménagement, il exclut les flux migratoires. Tous les flux lui font mal, sauf celui-là. Or, effectivement, là, je rejoins, nous sommes tous des sédentaires, nous n'habitons pas les flux, et on a le sentiment qu'on voudrait nous faire vivre exclusivement dans les flux. Mais, en même temps, nous avons une belle discussion, Laurent Geoffrin, ici. Oui. Mais justement, c'est une discussion. Une discussion n'est possible qu'entre gens qui ne savent pas exactement où est la vérité, qui se savent faillibles et qui ont besoin de l'opinion des autres.
Mais vous pensez que je me sens
infaillible ? Non, les progressistes disent des réactionnaires, effectivement, qu'ils appartiennent à un moment dépassé de l'histoire. Victor Hugo, l'agonie à ses ruades, en langue politique, cela s'appelle la réaction. Une réaction, barque qui remonte le courant, mais qui n'empêche pas le fleuve de descendre. Et c'est dommage. Pourquoi ne pas discuter sur le mariage pour tous, sur la question de l'immigration, entre gens de bonne volonté, en suspendant ce terme absurde de réactionnaire ?
Alors,
Laurent Geoffrin.
Sur l'immigration, là aussi, permettez-moi de le dire, c'est un peu outrancier ce que vous dites. C'est que y a très peu de gens qui sont pour l'ouverture absolue des frontières. Il n'y en a pratiquement pas. Il y a quelques associations, parce qu'elles défendent les sans-papiers. Donc, comme les avocats prennent le parti de leurs clients, la Ligue des droits de l'homme, toutes ces associations qui s'occupent de qui sont des pauvres gens, quand même, les sans-papiers, ont tendance à dire laissez-les rentrer, évidemment, ils les ont sous le nez. Donc, c'est une question humaine. Et si vous aviez des sans-papiers dans vos connaissances, vous en avez peut-être, vous seriez plutôt favorable à ce qu'on leur donne des papiers, parce que c'est des braves gens. Et contre même vos prises de position en général. Personne en France ne souhaite ouvrir les frontières. Personne.
Mais elles sont ouvertes.
Non, c'est pas vrai. Si elles étaient... Non, attendez. C'est factuel.
Hollande et Sarkozy ont convenu dans leur débat qu'il y en a entre 100 000 et 200 000 par an.
Mais alors, c'est pas énorme.
Ah bon ?
Mais c'est comme ça dans tous les pays.
Ça fait 2 millions par an, 10 ans.
Comme ça tout... Oui, mais enfin, il y en a qui s'intègrent au fur et à mesure, et beaucoup. Et par ailleurs, si c'était si simple de venir en Europe, pourquoi est-ce que ces pauvres gens iraient se mettre sur des rafios qui coulent une fois sur deux et où ils meurent ? Si c'était si simple. Si c'était, comme dit Marine Le Pen, on entre comme dans un moulin. Mais pas du tout, on n'entre pas comme dans un moulin, c'est très difficile. On ne peut pas rentrer en avion, on ne peut pas rentrer en train, on ne peut pas rentrer en bateau. Il faut aller à pied, passer des frontières, et échapper à des chiens policiers, etc. C'est vachement dur d'entrer en Europe. Et le fait qu'il y ait des... Alors il y a beaucoup de touristes, alors il y a qui sont touristes et qui restent au-delà de leur visa. Ça, c'est une manière de rentrer. Mais c'est inévitable. Dans tous les pays du monde, il y a de l'immigration. C'est un problème qu'il faut bien gérer. Et là, je termine. Et les pays où il n'y a pas d'immigration, vous trouvez qu'ils se portent mieux que ceux où il y a une immigration ? Je ne crois pas. Japon, il y a très peu d'immigration. Est-ce qu'au Japon, on vit beaucoup plus heureux qu'en France ou qu'en Angleterre ? Je ne crois pas.
Denis Linac.
Trois choses. Pour essayer d'être bref et de reprendre les... On n'est pas en désaccord sur tout, d'ailleurs, avec ce que vient de dire Laurent Geoffrin. Mais ça me dit... Bon, je distingue une immigration historique qui fut celle jadis des Polonais, des Italiens, puis des Espagnols, puis des Portugais, puis des Marocains et Algériens un peu avant et surtout beaucoup après la guerre pour la bagnole et le textil. Une immigration du travail, d'une immigration des droits sociaux. Déjà, premier distinguo. C'est-à-dire que l'immigration qui intervient depuis le regroupement familial, c'est pas la même de nature. Donc, elle pose des problèmes spécifiques. Deuxièmement, je suis d'accord, je suis catholique, le catholique se doit d'avoir de la compassion pour l'errant, le migrant, l'exilé, le paumé, le pauvre. Oui, et le chef d'État, il a le devoir de ne pas avoir de compassion. C'est tout le tragique de sa condition. Et donc, sa petite morale individuelle, oui, il la laisse de côté, oui, il ne fait pas de politique. Sinon, on fout un pays en l'air. Troisièmement, pour l'islam, moi, je serais... Alors là, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je découplerais complètement la question la lutte contre le terrorisme, bien menée, mal menée, ça c'est un débat technique, et j'avoue ne pas avoir de compétences particulières, de la majorité de nos compatriotes musulmans, au contraire, pour un réac, ce sont des alliés naturels, des musulmans qui sont... non pas intégristes, mais qui sont un peu traditionnalistes, qui sont un peu pieux, qui élèvent leurs gosses avec des principes moraux, et d'ailleurs souvent ils les envoient dans les écoles catholiques parce que à tort ou à raison on pense que c'est
féminine,
et pour ce qui concerne le mariage homo ou la théorie du genre, ils sont pas très portés pour donc je ne veux pas les mettre dans le sac des terroristes.
Moi je pense qu'il faut pas les mettre dans le sac des terroristes, vous avez raison, mais comme je ne suis pas réac,
les terroristes ils tuent d'abord les musulmans,
comme je ne suis pas réac, n'en fais pas des alliés. Mais une dernière question. Laurent Geoffrin, vous avez dit le réac, c'est celui qui n'aime pas la liberté ni l'égalité. Or, vous, à un moment donné de votre livre, Denis Tillinac, du bonheur d'être réac, vous parlez du sort fait à Richard Millet, un écrivain aujourd'hui banni. Je pense aussi, bien sûr, à Renaud Camus. Ce sont des opinions que l'on déteste, et ce sont des gens qui sont totalement bâillonnés. Donc là, il y a une sorte quand même de surprise.
Il n'a pas été bâillonné
gens,
par la loi.
Ils sont bâillonnés par les journaux, ils sont bâillonnés par les éditeurs, parce que Fayard...
Il y a une omerta à la sicilienne Fayard du milieu, honore, des libraires, des éditeurs...
Fayard honore les contrats signés par Renaud Camus avant la rupture, mais depuis... Il publie à compte d'auteur. Donc, le dernier volume des Demeures de l'Esprit, qui sont une entreprise extraordinaire, vient de paraître chez Fayard. C'est sur les deux
Renaud Camus, je suis d'accord. Sur Millet, je ne suis pas d'accord. Sur Millet, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire des provocations, ce qu'il a fait, volontairement, en disant que ce Breivik, finalement, ça se comprend.
Non, 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 c'est surtout... Il a dit ça. C'est intelligent pour avoir compris que c'était à lire au deuxième degré. Millet est un...
En plus, il a confirmé tout ce qu'il pensait dans d'autres discussions. On ne peut pas faire des provocations. Je termine ma phrase. On ne peut pas faire des provocations et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des gens qui répondent.
Non, mais entre
répondre...
Vous faites quand même une distinction, je vois.
Oui, je fais une distinction.
Bon, Millet est un prosateur qui faisait et honneur à nos lettres françaises, et il restera
comme Brasignac et comme Céline.
C'est de l'amalgame.
Pas de l'amalgame, c'est au contraire, c'est des grands talents.
Absolument pas. Il a aucune conjoncture politique. Je le connais depuis 30 ans. Il a absolument rien à voir avec un fasciste, un nazi ou même un extrémiste de droite. Il connaît pas ces milieux-là. Enfin, Millet est un homme qui a été blessé par l'exercice de sa profession d'enseignant dans un lycée à partir desquels il a radicalisé des positions, c'est son droit. Bon, réagir à des provocations et dire « je suis tout à fait contre ce qu'a écrit Millet », d'accord, mais il y a eu une espèce d'omerta du milieu des éditeurs, du milieu des journalistes et du milieu des libraires, qui a marginalisé un homme qui est seul, qui ne sait pas bien se défendre, et effectivement, c'est une tentation que j'évoque dans mon livre, il y a la tentation à humilier comme ça des gens, à les reclure dans la marginalité, on peut en faire des radicaux.
Bien.
C'est un risque. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas mépriser.
Nous terminons là-dessus, parce que ce sont deux cas d'écrivains, deux cas spécifiques, mais la discussion avait aussi une très grande ampleur. Donc, je voudrais rappeler aux auditeurs le titre du livre de Denis Tillinac, « Du bonheur d'être réac, apologie de la liberté » aux éditions Équateur. Vous trouverez les autres références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Ethan Frome », roman d'Edith Wharton. Mes invités seront Julie Wolkenstein et Frédéric Vitou. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.